Et on accueille notre invité, le journaliste Raphaël Perry. Bonjour.
Bonjour à vous.
Pour votre livre « Bleus éphémères » qui vient de paraître aux éditions Hugo Sport, vous avez recensé 244 joueurs de l'équipe de France de football qui n'ont connu qu'une seule sélection. C'est un work in progress, hein, puisque le livre se finit sur Nordi Mukiele, donc l'un des derniers appelés en équipe de France. C'est quelque chose qui va être amené finalement à être renouvelé régulièrement, non ?
Eh bien, tout à fait. Il y aura toujours des éphémères tant que l'équipe de France de football existera et tant que les sélectionneurs ne donneront qu'une seule chance à certains joueurs d'être sélectionneurs de l'équipe de France.
Mais c'est une somme colossale quand même, hein, de joueurs, 244, on l'a dit. Comment vous avez procédé justement pour faire cet inventaire ?
Eh bien, au départ, l'histoire est toute bête. Moi, je suis journaliste à Bordeaux depuis 20 ans à l'agence France Presse. Donc, j'ai côtoyé ces 20 dernières années beaucoup de joueurs internationaux des Girondins qui n'ont eu qu'une seule sélection. Voilà, c'est leur particularité, que ce soit Jurietti, Faubert, Planus, Siani ou Carasso. Et en 96, j'avais l'idée de faire un livre à la quarantaine. En l'espace d'une semaine, il y a eu deux joueurs qui sont décédés, Jean Belvert, celui qui a découvert Antoine Griezmann, et Rémi Vogel, un Alsacien justement qui jouait à l'AS Monaco, qui sont décédés en 96. Ils avaient la particularité de n'avoir qu'une seule sélection, et là ça a fait tilt. Donc entre ceux que je connaissais de Bordeaux plus ces deux-là, je suis parti à la recherche de tous ces joueurs qui n'avaient qu'une seule sélection, les monocapés à l'époque, c'est pas encore les Bleus éphémères. Et je suis tombé sur la somme de 240, donc sur 900 joueurs à peu près. Ça fait à peu près un quart des joueurs qui ont joué en équipe de France depuis 1904 qui n'ont eu qu'une seule sélection. Donc il a fallu partir à leur recherche et ça m'a pris en tout 3 ans de recherche et 1 an d'écriture.
Oui, on imagine effectivement que les recherches ont dû être longues. C'est des histoires, comme le titre l'indique, hein, dans son sous-titre, des histoires fabuleuses et cruelles parfois. Vous avez cité par exemple Rémi Vogel qui a eu une aventure assez incroyable pour rejoindre l'URSS à l'époque. Et puis certains joueurs que vous avez cités également, comme Franck Jurietti, qui est connu pour détenir le record de n'avoir joué que 5 secondes en bleu.
Ça sera un beau souvenir pour Franck Jurietti, en tout cas, hein, d'honorer sa première sélection le jour où l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde.
C'est bien ça.
Voilà. Et cette fois, c'est bien filé. L'équipe de France bat le chiffre 4-0, l'équipe de France en tête du groupe 4.
Il n'est pas pris d'être battu en plus ce record, 5
non,
secondes.
On imagine.
Alors parmi les 244 joueurs qui n'ont qu'une seule sélection, Jurietti est à l'extrême et l'autre côté c'est Albert Rust qui a joué pendant 2 heures en 1986 contre la Belgique à Puebla pour le match de la 3e place de la Coupe du Monde du Mexique. Et il y a eu de tout, notamment il y a une douzaine d'Alsaciens qui ont été éphémères de toutes les époques, de 1920, dans les années 30, dans les années 40, 50 et les derniers date, donc c'était Rémi Vogel justement qui avait eu ce souci de visa notamment pour rejoindre l'URSS parce qu'il jouait à Monaco à l'époque et au dernier moment on l'a convoqué à la place d'un joueur qui était blessé et il a eu son visa pour partir en Russie qui lui était délivré une demi-heure juste avant d'arriver à l'aéroport.
Ouais, ce qui paraît complètement incroyable. Hein.
Exactement.
Ayash, Vogel, le petit nouveau, Fabrice Poulin, José Touré qui finalement joue, enfin Farjon. Et Boli qui ferme la marche, il va jouer pour la première fois libéraux dans cette équipe de France en l'absence de Patrick Battiston. Une charnière centrale toute neuve avec donc Basile Boli et Rémi Vogel, le monégasque qui étreigne ici sa première sélection en équipe de France. Il jouait la saison dernière à Strasbourg en deuxième division à l'espace de 3 mois. Le voici propulsé en équipe de France.
On l'a dit, c'est une somme colossale parce qu'il a fallu retrouver effectivement tous ces joueurs. Alors pour les joueurs les plus récents, vous avez pu demander quelques interviews. Est-ce que certains ont dit non ? Certains ne voulaient peut-être pas revenir sur cet épisode qui parfois est douloureux.
Oui, j'ai eu de tout. J'ai eu des joueurs qui m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas, ou qui étaient souvent soit injoignables, soit qui avaient perdu la mémoire pour ceux des années 50-60 qui étaient encore en vie et qui n'avaient plus grand-chose à dire sur cette époque-là. Et j'ai eu aussi, par exemple, vous êtes une radio strasbourgeoise, Roland Wagner, qui a eu en 79 une sélection contre les USA et qui était vraiment très très frustré de cette sélection parce que ça a finalement été la fin de son de son aventure de footballeur professionnel. Il a eu une grave blessure contre les USA. Il a eu du mal à s'en remettre. Après, il a joué une Coupe d'Europe, il me semble, contre l'Ajax, d'après ce qu'il m'avait raconté.
Oui, c'est ça.
L'Ajax Amsterdam. Et il jouait sous infiltration et ça a été le début de la fin pour lui. Et il avait vraiment de gros regrets pour pouvoir ne pas avoir eu d'autres sélections dans cette équipe de France qui était à l'avènement des championnats d'Europe de 84 à l'Euro.
Ouais. Alors, effectivement, certains joueurs ne ressortent pas indemnes. Alors là, pour le coup de Roland Wagner, c'est une grave blessure. Mais je pense aussi mentalement, comme par exemple Michael Siani, qui a connu une sélection difficile face à l'Espagne à l'époque, championne du monde, championne d'Europe, et qui derrière s'écroule complètement avec son club de Bordeaux.
Ouais, il était peut-être pas prêt psychologiquement à jouer ce genre de match. Alors oui, il est tombé contre le mauvais adversaire au mauvais moment parce que l'Espagne à ce moment-là dominait complètement le football mondial, l'Euro 88, l'Euro pardon 2008, la Coupe du monde 2010, l'Euro 2012, voilà, ils étaient vraiment injouables à ce moment-là. Ouais. Et il a été lancé contre l'Espagne et sur une seule action, il a pris deux grands ponts de Fernando Torres et ça a été la fin de son aventure en bleu et la fin aussi de sa montée en puissance au sein des Girondins que je suivais à l'époque et de sa carrière parce que même s'il a un petit peu rebondi en Espagne à la Lazio, ça a été un peu compliqué pour lui d'enchaîner derrière.
Et puis pour certains joueurs, c'est un peu inespéré, certains trentenaires, alors vous avez cité Albert Rust par exemple, là c'est plus une sélection, comment dire, pour le féliciter d'avoir été un bon second pendant toutes ces années. Hein.
Exactement. Et surtout, Albert Rust fait partie avec tous les joueurs qui ont fait les Jeux Olympiques de 84. Il ne voulait absolument pas jouer de match officiel avant parce que sinon, il n'aurait pas pu participer aux Jeux Olympiques de 84.
Ouais.
Et la majorité se souviennent surtout de ces Jeux Olympiques à Los Angeles, que ce soit Patrice Garande, Jean-Louis Zanon, qui ne voulait absolument pas jouer de match officiel avec l'équipe de France. Heureusement, la France organisait l'Euro 84, donc il n'y a pas eu de match officiel pendant 2 ans. Mais voilà, ils auraient refusé, quoi qu'il arrive, de jouer ces matchs officiels pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques.
Ouais, puisque à l'époque, le règlement était un peu différent hein, pour les Jeux Olympiques.
Tout à fait.
Il fallait pas avoir de sélection
officielle
dans le sens de match ayant un enjeu, match de compétition.
Voilà, faire du match amicaux, ouais, mais pas de match qualificatif.
Ouais. Alors je le disais, c'est des parcours différents. Pour certains, c'est un peu l'avènement de leur carrière avec une sélection un peu inespérée. Albert Rust, on savait que c'était la fin. Ou alors Steve Savidan, là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir été appelé comme ça à son âge, jouant dans un club un peu de seconde zone à l'époque.
Ben surtout à ce poste-là d'avant-centre où il y avait pléthore de joueurs de très très haut niveau à cette époque-là, Thierry Henry, David Trezeguet, l'avènement de Karim Benzema, Djibril Cissé, et il a profité justement de plusieurs blessures, de plusieurs renoncements, c'était un match amical contre l'Uruguay, et Raymond Domenech, qui était expert justement en cette petite fantaisie de prendre des joueurs qui étaient en forme mais sans être vraiment avoir peut-être le talent pour rester en équipe de France, il a lancé, il a fait du Savidan ce jour-là, il a tenté de retourner acrobatique, un peu comme Papin à l'époque, c'était peut-être son successeur en équipe de France, mais voilà, il a fait 2 matchs, mais lui il en garde vraiment un très très bon souvenir parce qu'il ne pensait pas même 4 ans ou 5 ans avant qu'il jouait en national et qu'il finissait ses fins de mois en étant éboueur pour gagner un petit peu d'argent, jouer quelques années plus tard en équipe de France.
Et il aurait même d'ailleurs pu être rappelé plusieurs fois par la suite.
Il aurait pu être rappelé, mais il a eu un petit souci de santé, enfin un gros souci de santé. Ouais. Voilà, il détectait un problème cardiaque lorsqu'il a signé à Monaco et ça a mis fin à sa carrière. Aujourd'hui, il joue encore un petit peu pour le Varité notamment parce que bon, là, il n'y a plus de soucis au niveau de sa santé. Les médecins lui ont dit vous pouvez jouer. Mais voilà, lui, il en garde vraiment un bon souvenir alors que d'autres peut-être sont frustrés de la manière dont ça s'est passé.
Tous, par contre, disent qu'ils ont été bien accueillis, même pour des joueurs comme ça, un petit peu pour qui c'était un peu inespéré d'être appelé en équipe de France. Tous parlent d'une bonne ambiance et d'un bon accueil. Hein.
Oui, la majorité parle de ça. Peut-être pas après sur le terrain, mais bon, voilà, tous ceux que j'ai eus reconnaissent qu'il y a vraiment un esprit France, un esprit groupe. Même si bon, ceux qui ont participé à 2010 avec l'épisode Nice-là ont vu que ça se détériorait à certains moments, certaines périodes, avec certaines personnes de cette équipe de France. Mais pour la majorité, ils en gardent vraiment un bon souvenir. Avec le temps, la frustration a été remplacée un petit peu par un sentiment de bon. Finalement, c'était une petite consécration pour la majorité d'entre eux.
Ouais. Effectivement, cette période 2008-2010, on parle beaucoup de... Enfin, ceux qui ont été appelés, hein, ces fameux éphémères, parlent de tensions qu'ils ressentent immédiatement en arrivant dans le groupe.
Oui, tout à fait. Savidan en parle. Planus m'en a parlé, mais en off. On sent qu'il va se passer ça, et notamment voilà, pour ce livre-là, j'ai aussi interrogé des journalistes qui ont vécu auprès de l'équipe de France, ouais. que ce soit Vincent Duluc ou Jeannot Rességuier pour les contemporains, et eux aussi ont senti qu'à un moment donné, ça, bon, voilà, ça ne pouvait que dégoupiller au niveau de l'équipe de France. Et ce qui s'est passé finalement à Nice-Nas, c'était prévisible depuis 2-3 ans, non pas parce que c'était Raymond Domenech, mais parce qu'il y a vraiment des tensions entre les joueurs, avec le staff et avec la presse notamment.
Ve que lo trabajé, eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo cuatro rounds.
Que me quede otro round, tanto que me ha rogado. Yo lo tengo aficiado,
yo te he observado.
No aguanta, se adapta, me dice. No quiero que termines, es un misterio pero no de cine. En las noches soy yo la que define. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round. No se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo y de una me pongo pa'l trabajo. Suéltale este baby, yo te relajo. No se pone bella, me dice que ella sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.
En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabajé, es motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
On est avec notre invité Raphaël Péri pour parler de ce livre Bleus éphémères. Alors il y a également dans ce livre, Raphaël Péri, quelques révélations, en tout cas moi que je ne connaissais pas, notamment l'histoire de Jean-Luc Dogon, donc, qui avait été appelé comme Bleu éphémère, qui est rappelé en 1993 pour le fameux match France-Bulgarie. Il ressent une petite douleur, donc il est honnête avec son sélectionneur, il dit qu'il ne pourra pas jouer, donc il sera dans les tribunes, et finalement c'est David Ginola qui prend sa place sur le banc avec la suite qu'on connaît.
Ouais, et Aimé Jacquet lui en veut énormément parce qu'il part, il commence en 93 en se disant, bon, peut-être que je vais avoir une chance avec ma polyvalence, il pouvait jouer latéral ou milieu de terrain. Avec sa polyvalence, il espérait pouvoir jouer la Coupe du Monde en 94. Tout était bien parti, vous connaissez le scénario. Il y a eu le France-Israël d'abord, où la France perd 3-2. Ouais. Et là, il est rappelé, il est partant, il s'entraîne, il fait la préparation d'avant-match, l'entraînement d'avant-match, et là, il ressent une douleur. Il en fait écho à Aimé Jacquet, et Aimé Jacquet va lui en vouloir toute sa vie, ne le rappellera pas juste derrière comme celui qui prendra la succession de Gérard Rouillet. Et le fait qu'il soit remplaçant fait que David Ginola, qui était au départ prévu 17e, il n'y avait que 16 joueurs sur la feuille de match à cette époque-là, c'est David Ginola qui va rentrer dans les 16, qui va être remplaçant, et qui va rentrer et qui va amener, voilà, qui sera à l'origine de cette action de Kostadinov.
Ouais, ce fameux centre au troisième poteau qui entraîne avec la contre-attaque de Kostadinov. Justement, on peut rester peut-être sur Aimé Jacquet, qui a fait aussi beaucoup d'essais, puisqu'il avait une longue période de matchs amicaux durant lesquels il a pu faire des essais. Et il y a cet essai avec Cyprien, qu'on voit un petit peu comme le futur de l'équipe de France, qui pourrait être un Thuram. Je crois que c'est Vincent Duluc qui le dit. Il aurait pu avoir la carrière à la Thuram. Et finalement, ce joueur n'aura qu'une seule sélection.
Oui, il a une seule sélection contre l'Italie. Le premier match, justement, gagné par Aimé Jacquet à Naples. La France, ça faisait 82 ans qu'il n'avait pas battu l'Italie en Italie.
Ouais, un peu dans l'indifférence générale, après le France-Bulgarie.
Complètement, c'était le premier match après France-Bulgarie. Donc, voilà, c'était le match du renouveau, entre guillemets. Donc, Aimé Jacquet le lance. Au départ, à l'origine, il aurait pu être titulaire d'entrée. Il s'est joué entre lui et Carambeu, parce que Aimé Jacquet cherchait un latéral droit. Il savait pas si Cyprien, habituel central à Saint-Etienne, pouvait jouer latéral droit. Finalement, c'est Carambeu qui a été choisi. Cyprien est rentré à un quart d'heure de la fin. Donc, il a joué, il a fini, il a gagné ce match-là avec l'équipe de France. Malheureusement pour lui, 3 jours après, il se fait une grave blessure au tendon d'Achille, il me semble. Et voilà, c'est aussi le début de la fin. Et Jean-Michel Larquet, que j'ai interviewé justement pour ce livre-là, m'a aussi dit qu'à l'époque, il était directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, que durant sa convalescence, il le faisait souvent sur le dance floor des bars de Saint-Etienne. Et c'était vraiment compliqué pour lui. Et donc, peut-être l'hygiène de vie, un manque de professionnalisme, voilà. Sans parler de je m'en foutisme, il a perdu toutes ses qualités. Et après, il a fait une carrière, a priori, plutôt anonyme au niveau de l'Italie. Même s'il a eu 2-3 petits retours en France lors de prêts, mais ça a vraiment été compliqué pour lui et voilà, il n'a pas pu vivre l'aventure de 98. Et c'est vrai que c'est Vincent Deluc qui disait que poste pour poste, avec Lilian Thuram, les deux se valaient à l'époque.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des périodes où il y a eu un peu plus d'essais comme ça de sans lendemain?
Oui, les premières années entre 1904 et 1930, déjà il y avait beaucoup moins de matchs qu'à l'époque, et il n'y avait surtout pas beaucoup de remplaçants. Et les joueurs n'étaient pas professionnels, donc la majorité travaillait. Ils travaillaient pas pour les villes en tant que cantonniers ou ce que vous voulez, employés par les municipalités. Ouais. Donc c'était parfois difficile de pouvoir se libérer pour pouvoir jouer, et beaucoup de sélections sont parties à 10, voire à 11 joueurs. Il manquait souvent un joueur et il y a eu beaucoup de bouche-trous dans cette époque-là. C'est-à-dire on prenait les joueurs qui étaient disponibles, non pas sur leur valeur, mais surtout parce qu'ils étaient simplement disponibles et prêts à partir, soit parce qu'ils étaient militaires en permission, soit parce qu'ils avaient une possibilité de partir sur 2 jours. C'était plutôt compliqué à l'époque. Et notamment, le premier Alsacien qui est parti en sélection, Alfred Roth, en 1920. Lui, il avait la chance de connaître un petit peu les joueurs parisiens de l'époque, parce qu'il y avait très peu de joueurs de province à l'époque qui jouaient en équipe de France. Il avait joué au Racing à l'époque, et c'était un pensionnaire de l'AS Strasbourg. Et pour un match en Suisse, à Genève, il me semble, il y a eu un Telex qui est parti de la Fédération française pour l'AS Strasbourg, disant « Est-ce que Roth peut venir nous rejoindre à Genève directement ?» Et finalement, Roth a rejoint ses coéquipiers dont il connaissait certains, simplement. Et la France a gagné 2-0 en Suisse. Et c'était la seule sélection de ce joueur.
Ouais, c'est quand même une autre époque. Hein.
Tout à fait, complètement. Il n'y avait pas de téléphone portable. C'est vraiment très compliqué de pouvoir communiquer à ce moment-là. Et donc, ce que je vous disais, voilà, il y a beaucoup de Parisiens, quelques nordistes à l'époque dans les premières sélections jusqu'en 1930. Et après, avec l'avènement du professionnalisme, ça s'est vraiment développé. On a eu beaucoup de joueurs qui arrivaient du sud et notamment de l'est, Sochaux, Strasbourg, et après la Lorraine dans les années 50-60.
Il y a une période dont je me souviens, c'est peut-être lié à mon âge aussi, la quarantaine, c'est la période post-86, après la troisième place à la Coupe du Monde au Mexique, où là j'ai l'impression que ça se succède. Soit les joueurs n'ont plus envie de venir en équipe de France, ceux qui ont connu les grandes années précédentes, soit il y a des blessures parfois un peu diplomatiques, et là par contre il y a vraiment beaucoup d'essais éphémères.
Oui, c'est là quand j'ai appelé ça la génération sacrifiée. Enfin, je l'ai appelé, j'ai vu que c'était la génération sacrifiée ou désenchantée, comme on veut, avec le départ de toutes les stars des années 80, que ça soit Platini, Giresse, Tigana un peu plus tard, mais voilà, tous ces grands joueurs, il n'y a pas eu la succession qui était prévue, qui était annoncée, que ça soit les Ferrari, Vercruz, Touré, et à ce moment-là, Henri Michel ou même son successeur Michel Platini, voire Gérard Rouillet, ont commencé on fait beaucoup d'essais pour trouver justement les joueurs capables de pouvoir relayer ces ténors des années 70-80. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs, notamment Rémy Vogel à l'époque, ou alors Jean-Philippe Rohr, l'ancien joueur de Metz et de Nice.
Ouais. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le potentiel était là. Hein. Il y avait les vainqueurs des JO de 84, il y avait les coiffeurs de 86, il y avait toute cette génération qu'on attendait impatiemment et puis qui finalement n'a jamais éclos, en tout cas en équipe de France.
Mais on a surtout imaginé que c'était les successeurs de Giresse et Platini, ce qui n'était pas au final.
Ouais.
On les a peut-être mis un peu trop haut. Voilà, c'est comme aujourd'hui, on parle beaucoup du successeur de Zidane, le nouveau Zidane. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette appellation-là, que ce soit Kamel Meriem, Gourcuff, Marine Martin. Tous ces joueurs-là, Samir Nasri, ont eu cette appellation de nouveau Zidane, alors que finalement, ils n'avaient peut-être pas les épaules ou le mental, justement, pour pouvoir avoir ce titre-là.
Ouais, on se rend compte que parfois, ça se joue à rien hein, d'avoir une sélection ou d'en avoir beaucoup plus par la suite.
C'est surtout le nombre aussi de matchs. Regardez, entre 1904 et 1914, donc la première période de mon livre, en tout, il y a que sur 10 ans, il y a 36 matchs.
Ouais,
aujourd'hui,
sûr.
36 matchs, on les fait presque en deux saisons.
C'est vrai.
Si vous regardez la Ligue des Nations, la Coupe de l'Euro ou la Coupe du Monde, on peut faire 18 matchs sur une saison en équipe de France.
Ouais. Alors vous
Donc voilà, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des sélections à l'époque qu'aujourd'hui.
Bien sûr. Vous l'avez dit, Raphaël Péri, les joueurs en gardent des souvenirs, parfois un peu traumatisants, mais surtout, ils en gardent quelque chose, c'est le fanion du match. Alors ça, c'est un peu la tradition, c'est que quand on est nouveau en équipe de France, on récupère le fanion du match.
Oui, et on se demande même si, parce que généralement c'est l'adjoint qui donne, ou le capitaine, l'adjoint du sélectionneur, ou le capitaine de l'équipe qui donne le fanion du match à un joueur, et on se demande si déjà on ne sent pas le fait que ce joueur-là ne reviendra pas en équipe de France, n'aura pas de nouvelles sélections, parce qu'il y a beaucoup de joueurs finalement qui ont eu ce fanion, et qui ne sont jamais revenus. Donc voilà, ils gardent soit, peut-être des fois il y en a qui ont gardé un ballon de match, des fois, mais c'est surtout le fanion qui leur reste, et voilà, c'est leur seul souvenir un petit peu de ce match-là, sachant qu'il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas été télévisés avant les années 60.
Ouais, donc on n'a même pas la trace visuelle finalement de leur match. Ouais.
Non, il y a très peu, il y a très peu.
Ouais. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose d'encore plus cruel que d'avoir une seule sélection, c'est d'être appelé en équipe de France mais de finalement jamais rentrer en jeu?
Alors, j'ai un confrère qui vient de sortir un livre, Bergot, je ne sais pas si vous connaissez. Il a recensé, lui, les 1000 joueurs qui ont côtoyé l'équipe de France, donc les 920 qui ont joué, donc les éphémères plus les autres, ainsi que tous les joueurs qui n'ont pas été retenus, enfin, qui ont fait partie de l'équipe de France, du premier groupe France, mais qui n'ont jamais été retenus, qui sont restés sur le banc. A priori, il y en aurait entre 70 et 80 qui ont été appelés en équipe de France, mais qui ne sont jamais rentrés avec le coq sur le ventre.
Merci beaucoup Raphaël Péri, je renvoie à ce livre passionnant sur l'histoire de l'équipe de France de football au travers des joueurs qui n'ont eu qu'une seule sélection, ça s'appelle Bleu éphémère, ça vient de paraître aux éditions Hugo Sport, merci beaucoup.
Merci à vous.
RBS, live and die.
RadioRBS.com.